Est-ce qu'ils sont ils, elles, là? Salut les pirates, est-ce que vous m'entendez?
Croyez vraiment que les pirates n'auront bientôt plus droit de rêver?
Prêts les enfants?
Oui, capitaine!
J'ai pas entendu!
Radio.
Radio. Radio. Radio. Radio.
Pirate.
Bonsoir la piraterie. Donc c'est Missa et Jazz. Salut Jazz, ça va?
Salut, ça va et toi?
Ça va, ça va. Donc Jazz du compte Instagram Léguines écrivent et donc Missa sur Radio Pirate, donc qui pirate tous les soirs ton confinement à 21h. Ce soir c'est l'émission antiraciste, on s'en bat pas la race et on va parler de poésie et de révolution et plus particulièrement de la poésie noire et de la poésie des Suds. Alors installez-vous confortablement et on va commencer tout doucement en musique avec Daybreak de Rekinsa. Bonsoir les pirates, donc vous êtes sur Radio Pirate, la radio qui pirate ton confinement tous les soirs à 21h. Et ce soir, c'est l'émission On s'en bat pas la race et on va parler de poésie révolutionnaire. Avec nous, il y aura donc, enfin il y a en fait actuellement Kiémis. Bonsoir Kiémis.
Oui, pardon, excusez-moi. Bonsoir à tous et bonsoir, Michel, ça va?
Ça va, et toi, ça va? Donc, Kémy, tu es une poétesse afroféministe et tu es l'autrice du recueil À nos humanités révoltées et du blog Les bavardages de Kémy, c'est bien ça?
Ça.
Et avec nous, il y a aussi Louze. Comment tu vas, Louze?
Salut, ça va, merci et toi?
Ça va, ça va. Donc toi, tu es étudiante en littérature et tu travailles sur les poésies féministes contemporaines et post-décoloniales, c'est ça?
Oui.
Donc ça va être une émission super intéressante. Et avec nous, il y a aussi Jazz, donc ma co-animatrice, qui est aussi titulaire, genre, qui tient le compte Instagram Les Gouines Écrivent. Comment ça va, Jazz?
Écoute, ça va très bien, merci de me le demander. J'ai cru qu'on allait oublier de me le demander.
Mais non, donc c'est toi qui vas poser la première question, donc je te laisse la parole.
Oui, c'est moi qui vais poser la première question. Donc déjà, bonsoir Kémis, bonsoir Luz. Merci de nous honorer de votre présence. Alors en fait, c'est pas tant une question que plutôt un sujet. Je voudrais commencer par définir la poésie avec vous. Et donc j'ai deux questions, une pour Kémis et une pour Luz. Donc on va faire dans l'ordre. Je vais commencer par Kémis. Dans le titre de l'émission de ce soir, on parle de poésie noire. Et moi, j'aimerais que tu définisses ta poésie. J'aimerais savoir si tu penses que tu t'inscris dans un courant de poésie noire. Je sais que tu te définis comme afropéenne, pardon, excuse-moi. Est-ce que ta poésie aussi est afropéenne? Comment tu définirais ta poésie à toi, ton art?
Déjà, merci de m'avoir invité. Salut Jazz. Je suis ravie d'être avec vous. Je ne sais pas si je dirais que ma poésie, elle est ma poésie noire. Enfin, je ne sais pas si je le dirais comme ça, mais ce qui est sûr et certain, c'est que je suis très inspirée par les auteurs et les autrices des mondes noirs, donc des mondes afrodescendants. En général, bon, en bonne occidentale, je suis quand même inondée par la littérature qui provient des États-Unis, hein, notamment. Mais j'essaie justement d'aller creuser, parce que malheureusement, du fait de l'hégémonie américaine, on est un peu obligé de se forcer aussi, et d'aller chercher aussi ce qui se passe dans les mondes caribéens et dans les mondes africains, en tout cas dans l'Afrique continentale. Donc ça, c'est clair que moi, je vraiment, je me reconnais vraiment dedans. Je suis vraiment inspirée. Si j'y appartiens, tant mieux, ce sera un honneur, parce que quand je pense aux figures comme voilà, Léon Gontran Damas, Aimé Césaire, enfin, c'est des grands noms, Audrey Lorde, voilà, c'est quand même des très beaux noms, même Tanya Laboni, qui est une poétesse écrivaine ivoirienne, c'est vraiment des très beaux noms. Donc si je peux... Si je suis inspirée par eux, si un jour on me dit, bah voilà, t'es avec eux, ce sera vraiment, voilà, ce sera le top du top. Ensuite, oui, sur le fait que ma poésie est afropéenne, moi, bah, notamment dans nos humanités révoltées, ce qui était très important pour moi, c'était de pouvoir apporter, en fait, à la bibliothèque afropéenne, parce que justement, on est très inondé quand on est en Europe, par des imaginaires, par des écrits qui sont voilà, qui appartiennent au monde atlantique, afro, enfin afro en général. Mais pour moi, c'était vraiment important de proposer en fait une écriture française, enfin une écriture française. En tout cas, quelque chose qui vient d'une personne qui vit en France, qui a grandi en France, qui est née en France. Je pense que ça existe pas parce que pas du tout, hein, je pense. Notamment à Gaëlle Octavia, je me souviens plus de son nom de famille, qui est aussi poétesse et romancière. Mais voilà, c'était très important de m'inscrire là-dedans parce que je voulais proposer ça aussi à des gens, bah, qui sont pas afro-américains, quoi, qui sont pas, qui ont pas grandi en Afrique continentale, qui ont grandi comme moi à Paris ou en région parisienne ou à Lyon ou à Toulouse ou à voilà. Donc c'était
Et
important pour moi.
merci pour ta réponse qui est mise très complète. J'aimerais d'ailleurs te demander, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas défini, est-ce que tu pourrais définir le terme afropéen pour nos auditeurs, s'il te plaît?
Alors moi, afropéenne, c'est un terme que j'ai rencontré chez Léonore Amiano, qui est une écrivaine franco-camerounaise que je pense que certains et certaines connaissent, ceux qui connaissent pas et celles qui connaissent pas, je vous invite vraiment vivement à aller lire ce texte, qui pour moi, alors je sais que la définition est pas peut être changeante, mais en tout cas pour moi c'est vraiment quelqu'un qui grandit et qui vit en Europe en étant noir. Moi ça me correspond parce que je vis en France, en région parisienne, et du coup qui se retrouve avec des influences qui peuvent venir des mondes afrodescendants. Donc ça peut être moi par exemple, mes parents sont camerounais, je suis camerounaise quelque part, donc Cameroun, ou ça peut être la Caraïbe, etc., mais qui est aussi du fait de l'école française, c'est vraiment ses inspirations occidentale et européenne, en fait. C'est comme ça que moi je le définis. Voilà. Okay. Après, voilà, moi j'ai parlé de Léonore Agnano, mais il me semble que ce terme était déjà aussi très présent dans des écrits universitaires, notamment avant que Léonore Agnano s'empare du terme. Et ce que je trouve intéressant avec le terme afropéen, c'est que voilà, il met vraiment en lumière cette espèce de ces espèces d'influences, en fait, qui peuvent exister, qui coexistent en fait en nous et qu'on peut pas renier. Et ce que je trouve intéressant, c'est voilà, c'est par exemple quand je suis face à quelqu'un qui n'a pas grandi en France, qui est noir mais qui n'a pas grandi en France, ben c'est intéressant pour moi aussi de me situer vis-à-vis de ça, parce que ben j'ai pas forcément la même expérience que ben des cousins qui n'ont pas grandi en France, par exemple, ou des gens voilà de ma famille proche qui n'ont pas grandi en France. Et ça, c'est, je trouvais que c'était intéressant, en fait.
Ok, je comprends, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'on ne fait pas assez de distinction suivant où on est, si on vient plutôt du nord, du sud, où on a fait nos études, etc. Et donc, je comprends ce que tu veux dire et je te suis un petit peu sur cette réflexion. Louz, maintenant, c'est à toi de me définir ta poésie, enfin du moins la poésie que tu étudies, parce que tu es étudiante en littérature et donc tu t'es un petit peu spécialisée en poésie. Moi, j'ai plusieurs questions. Donc déjà, j'aimerais effectivement que tu me définisses ta notion de la poésie, mais que tu m'en dises un petit peu plus sur la poésie féministe et post-décoloniale. Je sais que c'est ton sujet de mémoire, d'ailleurs tu pourras rappeler à nos auditeurs ton sujet de mémoire et nous l'expliquer. Et puis peut-être nous citer quelques autrices sur lesquelles tu travailles, puis nous définir un peu plus ton travail et ton corpus d'études. Enfin, et puis bonsoir, excuse-moi. J'ai été un peu vive.
Il n'y a pas de souci, merci pour ta question. Alors déjà, du coup, poésie, qu'est-ce que c'est pour moi? Je définis la poésie un peu comme, une espèce de jeu de mots, de jeu avec les mots, qui créerait une émotion, ou en tout cas qui viserait à créer des émotions plutôt positives, plutôt sensibles, plutôt vives chez les personnes qui la lisent ou l'écoutent. Donc c'est très très large, mais c'est un choix, on va dire. Et du coup, la poésie sur laquelle j'ai travaillé, du coup, dans le cadre de mon mémoire et sur laquelle je continue un peu de travailler, enfin les poésies plutôt au pluriel, en gros, ça va être des textes poétiques qui vont être pensés, réalisés par des femmes, donc issues du Sud ou du Sud, des Sud ou du Sud, à voir. Des textes poétiques, oui, donc qui sont écrits par des femmes qui sont soit dans les pays du Sud, soit issues de ces pays-là, donc des personnes qui vont être racisées. Et en gros, les spécificités, elles vont se retrouver un peu sur tous les plans, c'est-à-dire qu'on va avoir des thématiques récurrentes. Je pense par exemple à la question de l'immigration, il va y avoir une forme d'interculturalité. Il va y avoir peut-être ou pas un engagement, peut-être ou pas, si, il va forcément y avoir un engagement féministe et forcément une façon de se situer dans un espace postcolonial ou de se revendiquer des luttes décoloniales. Ou afroféministe comme Kiemis, par exemple. Et après, voilà, on a plein de spécificités qui vont un peu se dégager de ce genre de poésie, même sur la forme, en fait, des poésies. On va avoir beaucoup d'intermédialité, hein, c'est-à-dire, en gros, on va avoir tendance à mélanger plusieurs formes artistiques. On va avoir beaucoup d'oralité, donc soit par des performances, soit dans les figures de style qui vont être utilisées. Il va y avoir un ton oralisé, enfin, plein de choses. Du coup, c'est un peu ce qui constitue là, ce que j'appelle les poésies féministes et post-décoloniales. Et puis, du coup, derrière, il va y avoir un enjeu littéraire et politique majeur, parce que c'est des espaces, du coup, littéraires, artistiques, où donc, les femmes racisées ou des pays du Sud vont s'auto-représenter, vont s'écrire elles-mêmes. Et c'est particulièrement cet aspect-là qui va m'intéresser. Elles vont proposer leur lecture du monde, des lectures souvent révolutionnaires, etc., etc. Ou pas, d'ailleurs, mais ça aussi, c'est intéressant à comparer. Hein. Pourquoi l'une propose une lecture révolutionnaire, pourquoi l'autre non. Enfin, bref, plein de choses. Du coup, voilà, il y a une dimension à la fois poétique et politique qui sont très liées, parce qu'au final, la poétique elle-même, elle est politique. Donc, voilà.
OK. Merci pour ta réponse, Luz. Avant de laisser la parole à Lisa, je voulais rebondir auprès de Kémis. J'ai fait une erreur, la seule erreur que je ne voulais pas faire, c'est-à-dire réduire ton art à ta couleur de peau. Et c'est vrai que j'étais juste posé des questions sur qu'est-ce que la poésie... Enfin, est-ce que tu considères faire partie de la poésie, enfin, des poétesses noires? Est-ce que ton art est afropéen? Et je m'excuse, je me suis trompée. Enfin, je n'aurais pas dû faire comme ça. Et je voulais te demander de définir la poésie comme Luz l'a fait, avec tes termes. Et je voulais m'excuser de t'avoir directement renvoyé à ce que je ne voulais pas faire du tout. Donc, si tu peux rebondir sur ça et me définir un petit peu ton art, sans forcément parler de couleur de peau, et voilà, je m'excuse.
Ouais, alors, il n'y a aucun problème, parce que c'est des questions qui sont intéressantes, et en plus, parce que je considère que... enfin, je n'ai pas l'impression que ce soit réducteur, en fait.
Okay. Après, je voulais pas faire, j'avais
pas. Ouais, bien sûr, je comprends, et c'est tout à fait normal. Je pense que c'est plus comment dire. Moi, c'est mon art en fait. Enfin, je pense que c'est important. C'est pour ça que je reste un peu sur la question, parce que je pense que c'est super important. Moi, c'est mes inspirations, c'est mon art. Je pense que c'est les autres qui considèrent que c'est réducteur, parce que moi, mon art, le fait que je sois afro-péenne, pour moi, c'est une expérience qui peut parler à beaucoup de monde. Pour moi, c'est universel. Donc, tu vois, je peux pas. Si je parle d'Audrey Lorde, en plus, c'est les personnes qui m'ont inspiré de fait, tu vois. Si je parle d'Audrey Lorde et de Maya Angelou et de. Enfin, je sais pas moi, et de Aimé Césaire, par exemple, pour moi, en fait, c'est pas du tout réducteur. Mais je comprends ce que tu veux dire. Alors, je trouve que Luz a super bien défini la poésie. Pour moi, la poésie, c'est particulier comme définition, mais pour moi, la poésie, je trouve que c'est un mode d'expression qui permet à la fois, effectivement, de véhiculer une émotion, de convoquer des images, et qui permet, à mon sens, de parler de choses politiques. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce médium, en fait. Et c'est quelque chose que... comment dire, c'est quelque chose que je trouve très absent de d'autres genres en fait. C'est un peu ce que disait Luz d'ailleurs, mais voilà, c'est pour moi c'est ça en fait. C'est un genre qui permet le mariage de l'émotion et d'une réflexion. Et je parle de ça parce que je pense que en tout cas à mon sens en Europe, c'est extrêmement mal vu de parler d'émotions. On peut avoir un discours très construit, tu vois. On peut avoir un argumentaire très bien structuré, mais il n'y a pas forcément la place pour, entre guillemets, ce que j'appelle le lyrisme, le fait de véhiculer des images, de véhiculer des sensations. Et en fait, je trouve que c'est un peu ça la poésie finalement. Après, il y a des gens qui utilisent la poésie pour pas du tout parler de politique, mais moi, c'est pour ça que c'est comme ça que je définis la poésie, et c'est pour ça que je trouve ça ce genre très très libérateur en fait, très libérateur.
Merci de m'avoir éclairé, Pianis. Je vais maintenant laisser la parole à ma co-animatrice Mélissa.
Je suis là. Donc merci pour les réponses. Donc pour info, vous êtes toujours sur Radio Pirate et on parle aujourd'hui de poésie et de sa portée révolutionnaire. on n'en a pas encore abordé le cœur du sujet, mais donc là, Kiemis et Luz nous ont défini leur vision de la poésie. C'était deux très belles visions, et je rebondis sur ce que tu disais là, Kiemis, sur le fait qu'en Europe, on a du mal avec les émotions, et justement, maintenant, à notre époque, la poésie, elle est un peu mal aimée. Dans le monde de l'édition, c'est le genre qui se vend le moins. Et moi qui travaille en bibliothèque, je vois aussi que c'est le genre qui est le moins lu, en fait. Mmh. Et donc, on peut se dire que finalement, on a une vision un peu archaïque ou cliché de la poésie. On imagine tout de suite nos profs de français en train de nous parler de je ne sais quel auteur de je ne sais quel siècle, et puis les alexandrins, on n'imagine pas la poésie en prose, on imagine la poésie toujours en vers, etc. Une définition un peu rigide. Mmh. Et donc toi, je sais que donc le titre de ton recueil de poèmes « À nos humanités révoltées » a été repris par des colleuses féministes qui ont fait un collage dans les rues de Paris. Donc on peut dire que finalement, tu as été un peu validée par la street. Et puis toi, Luz, j'ai vu que sur ton compte Twitter, tu parles souvent de rap. Et tu le lis en fait directement avec la poésie. D'ailleurs, je crois qu'il y a pas longtemps, en juin, tu avais fait justement un tweet sur le fait que À nos humanités révoltées de Kiemis avait été placardé sur les murs en disant que en même temps on entendait la sono qui passait du rap et que tu trouvais ça important la place de la poésie dans nos luttes. Et donc ma question pour en venir au propos, c'est est-ce que vous pensez, je sais un petit peu la réponse, on va dire que c'est une question biaisée, mais est-ce que la poésie, c'est un truc de bourgeois blanc? Est-ce que ça intéresse que les académiciens et les étudiants en littérature ou les profs de français? Et est-ce que cette vision, ça peut expliquer un petit peu le fait que la poésie, elle a du mal à décoller dans notre société? Luz en premier.
Ouais, alors déjà en fait, tu parlais de mon rapport au rap. Enfin, moi, faut savoir que déjà, bon, j'ai fait des études littéraires, tout ça, machin. Mais de base, moi, si j'aime bien les mots, si j'aime bien les textes, etc., c'est vraiment parce que mon grand frère était un grand fan de rap, qui me faisait écouter beaucoup de rap des années 90. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à m'initier, si tu veux, à aux mots, et mon rapport aux mots s'est un peu développé, etc. Et c'est comme ça que j'ai fini dans des études littéraires. Donc, c'est d'abord le rap, puis la poésie derrière. Et je fais partie des gens qui ont été vraiment lassés par le fait de compter des syllabes. Genre, j'étais là, mais ouais, pour aller où, en fait? Et encore, ça, c'est pas le pire, tu vois. Mais vraiment, je fais partie des personnes qui sont saoulées par les classiques, etc. Donc je te rejoins totalement là-dessus, et je pense que si la poésie elle est peu lue aujourd'hui, c'est aussi parce que qu'on promeut une poésie qui est extrêmement élitiste, etc. Mais qu'en réalité derrière il se passe des trucs de ouf qui sont hyper intéressants, et on le voit notamment depuis la révolution numérique. On voit plein de comptes Instagram qui publient de la poésie gratuitement, de la poésie qu'on arrive à lire sans réfléchir pendant 3 heures. Enfin bref, ce genre de choses. Et du coup, je pense qu'il y a un peu de tout en poésie. Mais qu'on met en valeur une certaine vision de la poésie qui n'est pas populaire, tout simplement. J'ai oublié ta question.
Je suis assez d'accord. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Ma question, c'était est-ce que la poésie, c'est un truc de bourgeois blanc? Ouais. Et donc, finalement, tu m'as un petit peu répondu en disant que c'est pas un truc de bourgeois blanc, mais c'est ce qu'on met en avant, en fait.
Ouais, complètement. Et pour ajouter, du coup, j'ai l'impression que c'est une vision qui est aussi très eurocentrée, tu vois. Moi, je sais que chez moi, en Algérie, notamment en Kabylie, d'où je viens, la poésie, c'est un truc qui est hyper populaire. Tu parles avec quelqu'un 5 minutes, il te sort des proverbes. La poésie, c'est vraiment l'art du peuple par excellence. Du coup, ce truc-là, c'est très blanc, c'est très eurocentré, c'est très élitiste, mais en réalité, je trouve qu'il y a de la poésie dans tout ce qu'on fait, que ce soit dans les quartiers populaires, que ce soit dans beaucoup de nos pays d'origine, dans beaucoup de pays des Sud, etc. Donc, non, pas du tout, pas du tout. C'est pas un truc de blanc bourgeois.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. En fait, même dans nos cultures, enfin moi, dans ma culture malgache, il y a tout un style de poésie malgache qui existe, et un art de l'oralité qui existe dans la plupart, des pays africains et hors Europe d'ailleurs, je pense. Je ne saurais pas non plus me prononcer sur tout parce que je suis pas spécialiste, mais bon. Et toi, qui es Miss, du coup, est-ce que tu crois que la poésie, c'est un truc de bourgeois blanc?
Mais moi, je suis tellement d'accord avec Louz, parce que c'est un peu pareil. Bon, alors déjà, j'écrivais de la poésie, puisque quand j'étais petite, en fait, je voulais être parolière. Je ne savais pas que ça existait être parolière. Je disais que je voulais être compositrice de chansons. Et donc, du coup, l'écriture de la poésie, ça me paraissait juste logique. Et puis, c'est marrant parce qu'il n'y a pas ce lien, mais comme Louz, mon frère, c'était pas mon grand frère, c'était mon frère jumeau écoutait énormément de rap. Et même au-delà de ça, le nombre de personnes que j'ai connues quand j'étais au collège, quand j'étais encore dans les quartiers populaires, parce qu'après, bon, bah, je suis partie, qui écrivaient des punchlines, qui écrivaient du rap, qui écrivaient des chansons, etc. Mais j'étais pas la seule, en fait. On écrivait, tout le monde écrivait un peu des chansons, tout le monde écrivait un... Enfin, il y avait plein de gens qui écrivaient des chansons, les gens, les filles qui les chantaient, bon, c'était quand même... Il y avait quand même une division genrée, mais... Enfin, il y avait quand même pas mal de trucs, et ça, je trouve que effectivement, je suis d'accord avec Louz. C'est pas du tout, en tout cas, moi, à mon époque, c'était pas du tout saisi par les professeurs de littérature, parce que ben, c'est considéré comme des sous-arts, en fait, tout simplement. Donc, moi, je suis une propagandiste de la poésie. Moi, je pense que la poésie, ça te fait vivre des choses. Qui me rappelle des choses que j'ai vécues quand j'ai écouté des chansons de rap, de la colère, enfin une espèce de voilà de transmission de l'émotion via la colère. En plus, pareil, moi la poésie, je le lis beaucoup à la musique aussi. Et donc du coup, non, c'est clairement pas un truc de bourgeois blanc ou d'académiciens ou de gens qui vivent dans le troisième et qui vont dans certains milieux où tout le monde se ressemble, quoi. Moi, je suis pour la démocratisation de la poésie. Et j'ai aussi été super inspirée par les Américains qui ont une pratique, en tout cas les Noirs américains qui ont une pratique de la poésie. Ils appellent ça slam. Enfin, moi, je comprends pas qu'on a traduit ça comme slam, mais bon, qui font de la poésie chantée, du spoken word. Et pareil, en fait, c'est des trucs où les gens vont en soirée, font. Bon, parfois il y a un peu d'élitisme aussi, mais beaucoup moins qu'en France, où les gens, en fait, ils vivent aussi la poésie. Ils font pas que la lire, en fait. Il y a tout un truc autour de la poésie. Donc, la poésie, elle vit, en fait. Et le problème, c'est que les gens qui nous enseignent la poésie, ils l'enseignent comme une langue morte.
Voilà. Ça, c'est super, super important ce que tu dis. Parce que moi, j'ai découvert un peu la poésie sur le tard. J'avais aussi un peu cette image de, bah, voilà, c'est le prof de français qui t'apprend à compter les syllabes, machin, machin. Et je voyais pas bien où ça voulait en venir. Et en amorçant des études de littérature, j'ai fait une licence de lettres. Là encore, j'étais un petit peu réticente. Déjà, moi, dans ma famille, mes parents, ils ont pas des diplômes de ouf, quoi. Ma mère, elle a arrêté l'école avant. Bah, elle a arrêté l'école quand elle a eu le brevet. Elle n'a pas le bac. Et par contre, elle m'a tout de suite initiée à la lecture. Elle m'a emmenée dans une librairie. Elle m'a dit voilà, t'achètes des livres. Mais jamais je serais allée vers la poésie. Et en fait, c'est en lisant la poésie à voix haute et en découvrant que la poésie avait une vraie musique que ça a été révolutionnaire de me dire ah ouais, en fait, la poésie, il faut pas juste la lire dans sa tête, il faut la dire, quoi. Donc je sais pas si une de vous veut réagir, qui est Mise peut-être.
Ouais, et puis peut-être vous aussi, on va peut-être parler parce qu'on parle souvent du coup ensemble, on va discuter ensemble. Moi je pense sincèrement qu'il y a un truc de on est tous traumatisés par Baudelaire en quatrième. Moi, bon, au final, j'aime bien Baudelaire, mais en fait, la chanson que j'ai appris de Baudelaire, donc Invitation au voyage, que tout le monde a appris, moi, je me souviens que la manière dont je l'ai appris en chantant. Et donc, du coup, en fait, j'ai kiffé parce que je chantais, je faisais une petite chanson dessus et tout. Bon, bah, du coup, ça m'a aidé à apprendre. Et du coup, ça m'a fait kiffer aussi. Je pense qu'il y a un. Enfin, bon, c'est bizarre, genre, Baudelaire a fait kiffer aussi. Mais enfin, bon, bref. Tout ça pour dire que, ouais, c'est clair que si. Déjà, ça s'associe à un truc de par cœur. Et je suis désolée, mais par cœur, c'est ennuyeux. Et ensuite, même quand il y avait des exercices d'écriture, ce que je comprends parce que ben, on est en classe et tout, les exercices d'écriture, ils sont notés. T'as pas envie de taper la honte parce que l'humiliation, c'est un truc de ouf dans l'école française. Donc, du coup, ben, forcément, en fait, t'as une association de quand tu apprends la poésie comme quelque chose de rébarbatif. Les thèmes, souvent, ça ne te parle pas. Les gens qu'on te fait étudier, ils te ressemblent rarement. Après, il y a des gens qui sont privilégiés, à qui on leur a amené en fait cette culture, donc la culture dominante, ils s'y meuvent très bien, donc du coup, bah ça va pour eux. Mais pour tous les autres, finalement, on se fait chier, quoi. Alors qu'en fait, je pense que tant qu'on mettra pas, comme disait Lou tout à l'heure, des meufs comme Naira Warid, par exemple, bon, elle est anglaise, mais. Enfin, afro-américaine, mais Naira Warid qui écrit des choses sur des trucs contemporains de manière, de manière accessible, au même niveau ou même ou dans le même cursus ou dans les mêmes syllabus ou je sais pas comment on appelle ça, des syllabus que Baudelaire, etc. Bah en fait, on restera dans des choses qui font que bah on va considérer que la poésie c'est chiant. Mais je veux quand même le dire. Bon après c'est pas le même marché. Mais aux États-Unis, la poésie, ça se vend. Rupikor, on peut en dire ce qu'on veut. En attendant, la meuf a quand même vendu 500 000 bouquins. Donc, c'est un truc qui se crée en fait. C'est pas juste. Ouais, en France, on fait pas la poésie. Non, il y a rien qui est fait autour de cet art en fait. Pour le rendre.
Ouais, c'est toujours la culture élitiste.
Ouais.
Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Et Luz, si tu veux dire un petit mot dessus, après je passerai la parole à Jasmine.
Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Kiemis. En fait, en France, on nous vend la poésie comme étant un art. Déjà, on nous parle souvent de poésie amoureuse, et rarement de poésie politique, sociale, ancrée dans le réel, dans les réalités matérielles des gens. Alors que, on regarde l'histoire de la poésie, franchement, j'ai l'impression que la poésie dite engagée est plus importante que la poésie amoureuse complètement dépolitisée. Et ça, je pense que ça éloigne les gens. Et je suis d'accord après pour la question de se réunir et de lire de la poésie ou d'en réciter, etc. Je pense que c'est hyper important. En fait, c'est des choses qui permettent de créer du lien social. En fait, c'est vraiment concevoir la poésie comme un art qui va créer du lien social, qui va être inséré dans la société, mais genre la vraie société, hein, pas trois mecs blancs qui ont envie de faire de la branlette intellectuelle. Enfin, bref, vous voyez un peu le délire. Et c'est pour ça que ça m'avait interpellée, en fait, le fait qu'on fasse des collages de la poésie de Kiemis, le fait qu'il y ait systématiquement du rap dans nos manifs. Et en l'occurrence, le tweet dont tu parlais, c'était pendant la manif contre les violences policières, il me semble. Et ça m'avait vraiment interpellée. Et je me suis dit, en fait, ça, c'est des gens, c'est des références, le rap ou la poésie de Kiemis ou d'autres, que les gens ont envie d'avoir, que les gens aiment, que les gens ont envie de lire, que les gens vont acheter. Pareil, quand on voit que le succès que peut rencontrer le rap, d'un moment, il faut arrêter de dire que les gens ont juste pas envie de se casser la tête avec des textes un peu complexes. C'est pas le cas du tout, c'est juste que on a envie de préserver en fait une forme d'élitisme dans la poésie, d'en faire un art qui est peu accessible, très restreint, et tout ça, c'est... on nous prive en fait de la poésie.
Merci beaucoup pour cette intervention super intéressante. Je vais filer la parole à Jazz, du coup.
Merci, Missa. Alors moi, j'arrive après cette grande conversation avec laquelle je suis plutôt d'accord. Enfin, d'ailleurs, on va continuer un petit peu sur cette conversation. Moi, je voulais vous demander, même si on en a quand même vachement parlé, pourquoi, voilà, pour Kiemis, tu as dit que quand tu étais plus jeune, tu voulais... en fait, c'est pour toutes les deux, mais donc je vais commencer comme ça. Pour Kiemis, tu as dit que quand tu étais plus jeune, tu voulais écrire, en fait, tu voulais être parolière, écrire des paroles. Donc, tu as toujours été attirée par les mots, par le fait d'écrire. Pour Luz, tu es passionnée par la littérature, par la poésie. Pourquoi avoir commencé ou à écrire ou à étudier la poésie, d'où c'est venu. C'est vrai que là, on vient d'avoir une longue conversation sur l'élitisme de la poésie, et moi, je fais partie, on est entre littéraires, en vrai, je viens de m'en rendre compte, je fais partie de ces personnes qui ont fait des études de lettres. J'ai fait un double master et j'en ai fait un en littérature, et de toutes les matières que j'avais, je détestais la poésie, et pour moi, moi qui ai été élevée par ma mère qui était ouvrière, c'était un truc totalement déconnecté et un truc de bourgeois, et j'ai jamais réussi à m'y mettre durant mes études, et ça doit faire peut-être un an que je prends plaisir à lire de la poésie, parce que effectivement, comme vous l'avez dit, la poésie c'est musical et je la lis à voix haute, sinon je déteste ça. Et je me demande comment ça vient? Je sais ce qu'on peut ressentir quand on a envie d'écrire, parce que j'ai écrit pas mal de nouvelles, même des débuts de romans inachevés, comme 80% de pas mal de littéraires. Mais comment ça vient l'envie ou d'étudier la poésie ou d'en écrire? Qu'est-ce qui motive? Je sais que Kémy, ce qui motive ton écriture, c'était la politique, parce que la poésie est politique, mais comment ça vient et surtout qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une certaine catharsis à travers ton art? Est-ce que tu as l'impression d'avoir déchargé ton corps, ton esprit de certaines douleurs? Est-ce que ça t'a soigné? Est-ce que ça t'a apaisé sur certaines choses? Et ensuite, dans un second temps, Louise nous parlait de qu'est-ce que ça t'a apporté d'étudier la poésie, d'étudier les femmes du Sud, qui sont quand même des femmes qui sont assez invisibilisées. Qu'est-ce que ça t'a apporté de leur redonner leur lettre de noblesse à l'université? J'aimerais commencer peut-être par celle qui se sent la plus disposée à répondre.
Pourquoi j'ai fait des études de lettres? Franchement, je ne saurais pas répondre à cette question. J'hésitais de ouf entre plein de trucs. Je voulais faire du droit, je voulais faire plein de choses, je voulais faire tout, mais rien à la fois. Donc, j'ai limite un peu choisi ça un peu au hasard, vraiment. Et après, les choses sont un peu plus définies plus tard. En fin de licence, j'ai eu un cours sur la poésie politique avec une prof géniale et qui nous avait fait étudier un corpus extrêmement intéressant. Donc évidemment, c'est en littérature comparée, bref. Et à partir de là, en fait, j'ai eu une idée. Je me suis dit, mais pourquoi on nous fait étudier que des mecs, même dans des cours en fait où il s'agit de littérature engagée, alors qu'on sait très bien que les femmes sont au front en fait dans les questions politiques. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un peu de recherche là-dessus. Donc c'est vraiment comme ça que ça s'est fait. J'avais pas vocation à ramener des femmes délaissées par le champ universitaire à l'université. Mais vraiment, en fait, j'avais vraiment envie de les découvrir moi-même et aussi parce que j'avais envie de travailler un truc qui me plaît, qui me parle, et la dimension politique m'intéressait de ouf. Donc, au-delà du fait qu'il faut effectivement décoloniser la littérature et l'université, il y avait vraiment un intérêt purement... un intérêt personnel, en fait, parce que du fait que moi aussi, je suis une femme racisée, du fait que moi aussi, je suis issue du Sud, etc., donc c'était plus ça. Après, pourquoi la poésie et pas autre chose? Franchement, c'est une question très compliquée, mais je pense que, comme disait un peu Kémis au début, il y a un truc dans le lyrisme, dans le rapport aux mots, dans le fait de... C'est à la fois intime et politique. Il y a un truc là-dedans qui me touche particulièrement, mais c'est vraiment purement... c'est purement sentimental, en fait.
Je comprends. C'est émotionnel, la poésie, c'est... L'art en général, c'est assez émotionnel et assez sentimental. Et je comprends ce que tu veux dire par là. Et je sais qu'il faut décoloniser l'université. Moi, je n'ai pas travaillé sur la poésie, mais j'ai travaillé sur Marie Scondé et sur la littérature francophone. D'ailleurs, il faut s'interroger sur ce qu'est-ce que la poésie francophone et la littérature francophone et qu'est-ce que ça veut dire. Donc, je vois ce que tu veux dire. En fait, oui, parfois, on a juste besoin nous-mêmes de nous reconnecter à notre histoire et pas forcément d'être toujours dans quelque chose de où on veut apporter aux autres, mais aussi de s'apporter à soi-même. On a besoin aussi d'être égoïste, et lorsqu'on étudie, on a besoin d'apprendre des choses pour nous. Donc, quand tu dis ça, je vois ce que tu veux dire, et c'est assez intéressant. Et je te remercie pour ta réponse. Kémy?
Oui, alors j'en profite juste avant pour dire que je suis tellement d'accord avec ce que dit Louise sur cette question et sur la question d'avant. Je suis désolée, mais j'en profite pour ça, dire. Pourquoi j'ai commencé, la réponse la plus simple, c'est quand même la fin. C'était sur la question de la catharsis. C'est clair qu'à nos humanités révoltées, c'est une catharsis. Enfin, il y a des textes, je les écris. Bon, c'était une catharsis. J'avais quand même déjà, j'étais pas en plein dans le mal, parce que c'est vrai que écrire dans le mal, c'est quelque chose. Et puis en plus, après, t'as tout le processus d'édition, de publication, donc du coup, c'est vrai que t'en sors, mais c'est clair qu'à nos humanités révoltées, c'est une catharsis. C'est une catharsis, c'est déposer des choses, et ça... Oui, on relie un peu à la première question. Pourquoi je commence à écrire la poésie? Mais en fait, je choisis presque pas. Il y a des mots qui dansent dans ma tête, et il faut les sortir, en fait. Il faut les sortir, ils doivent sortir, ils méritent d'être dehors... il mérite d'être sur papier. Et après, ce qui est vraiment ça, c'est vraiment des stats qui sont durs, hein, je pense, pour des personnes, pour tout le monde déjà en général, mais encore plus pour des personnes, des femmes non blanches, donc arabes, noires, asiatiques, voilà, racialisées. C'est encore plus dur pour nous de nous dire ces mots méritent d'être dehors, ces mots méritent d'être publiés et ces mots méritent d'être édités. Ça, c'est vraiment un processus qui ça m'a mis quand même un peu de temps. Mais ouais, j'ai pas le choix, en fait. J'ai pas le choix. Il y a quelque chose en moi qui dit j'ai un truc, on va dire ça, on va plus appeler ça comme ça. J'ai un truc, c'est l'écriture. Donc, j'aime pas dire ça parce que c'est un peu, ça mystifie un peu le truc. Et l'écriture, c'est pas du tout que ça. C'est beaucoup de travail. C'est, entre guillemets, l'apprentissage de soi, l'apprentissage de la technique. Je le dis parce que c'est important, parce qu'on on pense trop que écrire, c'est réservé à une toute petite élite qui a un talent inné et tout. Non. Faut démystifier ça aussi, parce que ça nous dessert. Mais il y a quand même un truc aussi d'indicible, en fait, de j'ai pas le choix, en fait, ça doit sortir. Ça doit sortir, en fait, dans ma tête. Non, c'est pas possible autrement, en fait. Et comme je pense que j'écris depuis que je suis petite, du coup, c'est presque devenu comme une habitude, en fait. Après, ouais, je pense que j'ai répondu à toutes les questions.
Parce que, en fait, je voulais rebondir en disant que c'est ultra intéressant, mais vraiment intéressant à mort lorsque tu dis qu'en fait, ça doit sortir, c'est un besoin. C'est-à-dire que c'est des choses que j'ai lues. Mais plutôt quand j'ai lu... Enfin, c'est vraiment marrant parce que je suis très fan de Nina Bouraoui, qui est une autrice franco-algérienne et qui est lesbienne. Et elle explique qu'elle commence à écrire parce qu'au moment où elle se rend compte de son homosexualité quand elle est à Paris et qu'elle va en boîte, etc. Et qu'en fait, l'écriture, elle n'a pas le choix d'écrire. C'est le désir. Bon, elle, pour le coup, c'est le désir elle ne peut pas assouvir son désir d'être avec des femmes, alors elle a un besoin d'écrire qui la dépasse, et elle est obligée d'écrire, quoi. C'est l'écriture qui la contrôle. Et j'ai l'impression que c'est un truc qu'on retrouve chez pas mal d'artistes et d'écrivains. C'est le fait qu'en fait, ce n'est pas toi qui as choisi l'écriture, c'est l'écriture qui te choisit. Et à un moment dans ta vie, il se passe des choses qui font que ben, tu n'as pas le choix d'écrire. C'est ta thérapie, et il faut que ça aille quelque part, et il faut que ça sorte, quoi. Et c'est exactement ce que tu dis, et j'ai l'impression que c'est des choses qu'on retrouve chez pas mal d'auteurs, et c'est super beau, en fait. C'est super beau, et ça montre à quel point l'art, ça peut être purgatoire, tu vois. Et je trouve ça magnifique. Merci pour ta réponse. Vraiment. Je crois que je dois redonner la parole à Missa, qui a été très silencieuse.
Oh, j'ai pas été silencieuse, je vous écoute religieusement parce que c'est super intéressant. Alors d'habitude dans Radio Pirate on fait une petite intermède, un petit entracte musical, mais je crois que ce soir ce qui se prête le mieux c'est plutôt de faire un intermède poétique. J'ai demandé à Kimis et à Louz de choisir des poèmes qu'elles apprécient et qu'elles vont nous lire ce soir. Donc après un petit jingle de 3 secondes et demie là, je vous laisserai lire les morceaux que vous avez choisis. Peut-être on va commencer par Louz, si tu peux te préparer. Et donc on lance le jingle.
Arrêtez-moi, j'ai été saucissonné par des jeunes pirates.
Alors Louz, est-ce que tu peux nous lire ce que tu as choisi, nous dire peut-être lis-le d'abord et ensuite dis-nous ce que tu as choisi.
Ok. Vivre, ce sera un jour pareil aux autres jours, un matin familier avec des joies connues, éprouvées parce qu'elles sont quotidiennes. De ces réveils qui traînent jusqu'à la toilette, la première cigarette après le café. Le journal commenté qui nous noircit les mains. Tous les gestes rituels reprennent leur bien. Des gestes paisibles qui installent la paix. Retrouvés qui recommencent la paix gagnée. Des gestes pleins d'assurance et de raison d'être. Qui entament le jour proprement sans bavure. Des gestes d'être libre et qui se souviennent. Nous prendrons soin de laisser la clé sur la porte. Et que la rue entre par la fenêtre ouverte. La rue tout entière, son soleil, ses enfants. la rue riche d'amis étrangers et de passants, fraternelle notre maison et à qui la veut, à qui a besoin de chaleur, à qui a faim. Mais il faut avoir faim et des yeux à jamais plus grands que le ventre, il y aura la joie. Mais nous n'oublierons rien de ce qui s'est passé. Nous n'aurons pas besoin de tellement parler. Vivre est bien suffisant. Et nous aurons appris à vivre. Alors, c'est donc un poème dont le titre est « Vivre ». C'est un poème de Anna Greki, qui est une poétesse algérienne révolutionnaire, qui a été membre du FLN, et qui a écrit notamment pendant son incarcération à la prison de Pau. Donc c'est un recueil qui a été publié aux éditions Terrasse, une petite maison d'édition tunisienne. Et le recueil s'appelle donc Juste au-dessus du silence, et c'est donc traduit par Lamis Saïdi. Donc j'ai pris la poésie traduite exprès parce que oui, on peut traduire de la poésie.
Merci Louise, c'était très beau. Et merci de nous avoir dit, de nous avoir dit d'où ça venait. Et on comprend pourquoi tu as choisi ça. Kémis, si tu veux nous lire ton extrait et ensuite nous dire ce que c'est.
Alors, ok. Alors, j'ai deux poèmes. Je veux savoir si je peux lire les deux ou si je dois en lire que un.
Non, tu peux lire les deux.
D'accord. Je suis entrée en poésie comme on entre en dissidence. Contre les mouvances, l'oppression sophistiquée, moderne et médiatisée de la pensée unique. Je suis entrée en poésie comme on entre en résistance contre le déni de dignité aux plus pauvres de l'humanité, justifiant les appareils des génocides pour donner au monde du spectacle. Je suis entrée en poésie comme on entre en rébellion, pour dire le deuil de la mémoire, l'ignominie des exclusions, le quotidien de la marginalité, l'épaisseur du mépris. Je suis entrée en poésie, comme on entre en transhumance, pour débusquer les certitudes, les enchaînements fatidiques, renouer les fils de l'histoire à la vigilance de l'éveil. Donc, ce texte est écrit par Dominique Agessi, qui est née en 1937 à Cotonou, au Bénin. Et donc, elle vit en ce moment en Belgique. Et elle a écrit des livres, en fait, sur le folklore africain et sur le travail, sur plein de choses. Elle a fait de la sociologie, donc elle a fait plein d'études. J'ai choisi ce texte déjà parce que c'est une poétesse, elle n'est pas que poétesse, mais c'est une poétesse africaine, subsaharienne du coup. Et je pensais que c'était important en fait de les faire exister parce que, encore plus dans le monde de la poésie, encore plus dans les mondes féministes, on n'a pas beaucoup de références en fait africaines, continentales et africaines subsahariennes, même si ça veut absolument rien dire. Et je trouvais que c'était intéressant de lui rendre cette place. Et vu qu'elle est née quand même en 1937, c'est aussi important de dire « on n'est pas les premières, je ne suis pas la première ». Voilà. Ensuite, j'ai écrit un texte, donc là c'est un peu… c'est totalement égocentrique de ma part de lire un de mes propres textes, mais je pense que c'est important, pas tant dans nos discussions sur la poésie, mais plus dans les temps actuels, parce qu'on est vraiment… je ressens… l'obscurité, vraiment. Je ressens vraiment l'obscurité humide, quoi, en ce moment, politiquement. Et je trouvais que c'était important de lire ce texte parce qu'il m'a fait du bien quand je l'ai écrit. Et j'espère qu'il va faire du bien aux personnes qui vont l'écouter. Quand on tente tous les jours de te fendre en deux et qu'entre les blessures coulera l'or précieux que les explorateurs colons veulent recueillir, tu te souviendras que tu n'es pas arrivé seul sur cette terre. Tu es le cadeau de tes ancêtres qui vivent à travers toi. Tu n'es pas seul. Ils t'habitent, connus et inconnus. Ils sont là, dans les plis de ton sourire, dans les creux de ton âme, dans tes cheveux qui poussent comme le baobab, qui viennent embrasser le ciel. Quand ton âme sera jonchée de cratères, rappelle-toi, tu n'es pas arrivé seul. Tu n'es pas seul, confronté à l'immensité d'une vie qui manque de sens. Tu es l'aboutissement de souffles, de tempêtes, de tornades, de soupirs, d'explosions, de sanglots, de vie. À travers tes cris, la vie. À travers tes yeux, la vie. À travers tes rires, la vie.
C'était magnifique. Ça m'a...
Incroyable.
Pouf. trop d'émotions. Jasmine, du coup, si tu... Jas, si tu veux lire ton...
Alors toi, tu as une identité secrète.
Non, c'est pas ma faute, Jas.
Alors moi, j'ai tellement honte après Kémis de passer avec... mon homme blanc classique qui est Verlaine et que j'adore. Moi, j'avais choisi un poème qui est ultra connu, qui est ultra classique, et parce que c'est le premier poème qui m'a fait aimer la poésie. J'adore Verlaine, malgré tout ce qu'il peut représenter. Je passe après Kémy. C'est assez compliqué hein, de passer après ce poème. Encore félicitations, Kémy. À un moment, tu as dit que c'était assez... je ne sais pas quel terme tu as utilisé pour dire qu'en gros tu te lisais toi-même, mais je pense que c'est très très important que les artistes se lisent soi-même, eux-mêmes, et que c'est important que tu te lises avant que les autres te lisent, et que c'est incroyable et que tout le monde mérite de t'entendre lire tes poèmes parce qu'ils sont fabuleux. Et encore merci. Alors, je lis Verlaine. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Au bruit doux de la pluie, par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie, oh le chant de la pluie. Il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écœure. Quoi? Nulle trahison? Ce deuil est sans raison. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine.
Voilà. Merci Jasmine, tu lis très bien aussi. Et donc moi je vais finir avec un poème que j'ai choisi, qui est un poème de Bernard Dadier, que j'ai découvert et que j'écoute en boucle, parce qu'en fait je l'ai découvert sur un vinyle que j'ai commencé à collectionner, c'est une série de vinyles que j'ai commencé à sélectionner qui s'appelle Les archives sonores de la littérature noire, et c'est vraiment incroyable. Et j'ai découvert une lecture de ce poème sur un de ces vinyles, et donc j'ai réussi à extraire le son de ce vinyle. Je l'ai mis dans mon téléphone et j'écoute régulièrement parce que ça fait vraiment du bien au cœur d'entendre ça. Et donc c'est ce que je vais vous lire maintenant. Ça s'appelle « Je vous remercie, mon Dieu » de Bernard Dadier. Je vous remercie, mon Dieu, de m'avoir créé noir, d'avoir fait de moi la somme de toutes les douleurs, mis sur ma tête le monde. J'ai la livrée du centaure et je porte le monde depuis le premier matin. Le blanc est une couleur de circonstance, le noir, la couleur de tous les jours. Et je porte le monde depuis le premier soir. Je suis content de la forme de ma tête, faite pour porter le monde. Satisfait de la forme de mon nez, qui doit humer tout le vent du monde. Heureux de la forme de mes jambes, prête à courir toutes les étapes du monde. Je vous remercie, mon Dieu, de m'avoir créé noir, d'avoir fait de moi la somme de toutes les douleurs. 36 épées ont transpercé mon cœur, 36 brasiers ont brûlé mon corps, et mon sang sur tous les calvaires a rougi la neige, et mon sang à tous les levants a rougi la nature. Je suis quand même content de porter le monde, content de mes bras courts, de mes bras longs, de l'épaisseur de mes lèvres. Je vous remercie, mon Dieu, de m'avoir créé noir. Le blanc est une couleur de circonstance. Le noir, la couleur de tous les jours. et je porte le monde depuis l'aube des temps, et mon rire sur le monde, dans la nuit, crée le jour. Je vous remercie, mon Dieu, de m'avoir créé noir. Voilà.
Wow.
Donc, il est vraiment, voilà, incroyable ce poème. Et je voulais vraiment le partager avec vous. J'espère que ça vous a plu. Et donc maintenant, avant de passer aux deux dernières questions, on va passer une capsule pour parce que sur Radio Pirate, il est important pour nous de dire aux victimes de violences qu'elles ne sont pas seules et que et donc on essaie de passer aussi ce message d'intérêt public sur notre radio libre. Donc tout de suite, une capsule sonore sur ce sujet.
Dans des situations de confinement, les violences conjugales et intrafamiliales s'accentuent. Confiné avec un conjoint, un père violent, le risque peut être plus grand. Mais vous n'êtes pas seul. S'il est déconseillé de sortir, il n'est pas interdit de fuir. Si vous ou l'une de vos proches est victime de violences à son domicile, il existe des numéros, des associations que vous pouvez contacter. Le 3919 est le numéro gouvernemental contre les violences faites aux femmes. Vous pouvez également contacter Viol Femmes Information au 0800 05 95 95. Ces deux numéros vous accompagneront en ce qui concerne des démarches de plainte, d'éloignement ou simplement pour des conseils. Si vous ou votre proche résidez en Île-de-France, le centre Hubertine Auclair met à votre disposition sur Internet une carte des associations qui accompagnent sur orientationviolence.hubertine.fr. Où que vous soyez, vous pouvez aussi contacter le planning familial le plus proche. Vous n'êtes pas seul.
Donc merci à toutes pour ces lectures très émotionnelles. Je suis vraiment très très contente de ça. Et apparemment, les gens qui nous écoutent sont aussi très contents. Et je les remercie de nous écouter ce soir sur Radio Pirate. Donc je vais poser l'avant-dernière question. C'est une question un peu compliquée, mais quand même. C'est le titre de l'émission. Alors est-ce que pour vous, la poésie et l'art en général peuvent avoir une portée révolutionnaire? Et justement, quelle est la place et le rôle de la poésie, notamment dans les luttes noires et décoloniales? Je vais donner la parole à qui est mise en premier.
Je pense que la poésie, ça peut avoir une portée révolutionnaire. Je pense que ça peut accompagner des luttes révolutionnaires. Je pense que c'est important d'être humble. En tout cas, pour moi, en tant que personne qui écrit de la poésie, c'est important d'être humble. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas en écrivant de la poésie que tu fais la révolution. Par contre, je pense que ça peut effectivement accompagner la révolution. C'est inspiré. Moi, en tout cas, ma poésie, elle est militante, elle est inspirée de personnes qui étaient aussi impliquées dans des mouvements révolutionnaires. Et je pense qu'elle peut aussi permettre de diffuser des messages, un propos révolutionnaire. Je pense que c'est d'ailleurs à ça que, enfin, je pense que c'est son outil, c'est son usage premier. C'est comme ça qu'il a été utilisé, notamment, je pense au mouvement aux droits civiques, je pense au mouvement de la négritude notamment. Je pense que c'est important de l'avoir comme outil accompagnant, des mouvements militants et qui peuvent permettre la diffusion d'un message révolutionnaire d'égalité radicale, quoi.
Merci beaucoup. Donc la poésie qui accompagne la lutte. Louz, est-ce que t'es d'accord avec ça?
Ouais, je suis assez d'accord. Je pense pas que la poésie puisse, dans un délire assez lunaire, remplacer des actions politiques directes ou remplacer une révolution. En revanche, ce qu'on constate à la fois dans l'histoire et dans les luttes actuelles, c'est que la poésie accompagne, comme le disait Kiemis, les luttes. Et du coup, je pense que le pouvoir de la poésie dans ces espaces et dans ces temps-là, c'est de nous faire renouer, en fait, j'ai l'impression, avec une forme d'humanité qu'on nous enlève du fait de l'oppression qu'on subit. Dans la poésie, on renoue avec des émotions, enfin nos émotions, des émotions qui sont collectives ou individuelles. Donc on fait renaître un peu quelque chose qu'on nous retire au moins le temps d'un poème. Et du coup, j'ai l'impression que la poésie, ça aide à vivre. Enfin, en tout cas, moi, ça m'aide à vivre concrètement. Donc ça ne résout pas les problèmes. Mais en attendant le grand soir, ça peut beaucoup aider. Et par rapport à la diffusion, ce que tu disais, Kémy, ça m'a fait penser à une poétesse britannique, pakistanaise et britannique, qui s'appelle Suhaima Manzor Khan, et qui, dans son recueil qui s'appelle Postcolonial Painter, elle propose une immense bibliographie, et voire même des explications de notions qu'elle utilise. Et du coup, ça fait vraiment mi-recueil, mi-traité politique, essai politique, avec beaucoup de références, beaucoup d'explications, un peu brochure. Enfin, je ne sais pas si vous voyez un peu, mais c'est un truc assez, assez complexe. Et je pense que c'est hyper intéressant, et ça dit beaucoup de comment on a besoin concrètement de la poésie pour diffuser, pour aider à vivre, pour remettre un peu d'émotion et d'humanité, pour donner de la force, en fait, dans nos révolutions.
Merci beaucoup pour cette réponse. Je trouve ça très beau quand tu dis que la poésie, elle t'aide à vivre. Et puis, je crois que ça rejoint un peu... ce que disait Kémy, et la question de Jazz sur la catharsis. Et comme on a un petit peu dépassé le temps imparti, je voulais juste introduire la dernière question de Jazz. Je ne sais pas si vous avez fait les manifs contre la loi travail en 2016, mais c'était aussi le moment où PNL était très à la mode, et il y avait des tags de PNL, de paroles de PNL de partout dans la rue. Et du coup, je laisse Jasmine terminer avec la dernière question.
La teaser. Ouais, moi, je pose une question fun, parce que moi, je suis quelqu'un de fun, et on est trop sérieuse. Alors moi, je me demande, effectivement, donc ouais, PNL, c'est vachement utilisé, même dans les milieux militants, etc., on les cite pas mal. Et à côté, il y a quand même toute une partie de la population qui dit que ouais, c'est totalement perché, ils disent n'importe quoi. Moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que PNL, c'est pas de la poésie? Et si oui, quel type de poésie c'est? Répondez comme vous voulez, en même temps, l'une après l'autre.
Moi, ça va être super court. Cool. Je dis Joker parce que je n'écoute pas PNL.
Oh non, si. Mais non, c'est pas possible. Arrêtez l'émission. Coupez. On arrête tout là.
Coupez là.
C'est ma chambre. Ok, bon, bah voilà. Bon, bah, bonne soirée.
Ah. Ouais,
bon, bah, allez, salut. Hein, c'était bien. Non, on va peut-être laisser répondre Luz quand même. J'espère que Luz t'écoute.
Oui, Luz, dis-nous que t'écoutes. Fais ça tous les albums.
Franchement, je vais relever un peu le niveau parce que j'écoute.
Ah,
pas yes. De ouf. Je vous avoue, pas de ouf non plus, tu vois. Mais j'écoute. Je connais quand même, j'ai les restes. Mais pas de ouf. Mais du coup, est-ce que PNL, c'est de la poésie? Bah, non, c'est du rap. Genre, non.
Mais est-ce que le rap, c'est pas de la poésie?
Mais franchement, je vais faire ma rabat-joie de ouf là.
Vas-y.
Mais tu vois, derrière le fait de dire que le rap, c'est de la poésie, je dis pas ouais. Que c'est votre cas là, hein. Je dis pas que c'est le cas ici, parce que je vous connais, je sais à qui je parle, mais généralement, ce que je vois dans le fait de dire que le rap, c'est de la poésie, il y a vraiment une espèce de... le rap, c'est aussi bien, hein, genre on élève un peu le rap, tu vois. On
ah.
Et moi, j'ai envie de dire, bah non, le rap, c'est du rap, la poésie, c'est de la poésie, et c'est très bien comme ça.
Je vois ce que tu veux dire.
Moi, j'aime bien cette conclusion, même
ouais,
si
moi aussi.
Je trouve, en fait, moi, pour moi, je qualifierais, enfin, pour moi, PNL, c'est de la poésie, mais pour moi, personnellement, parce que je ressens des choses similaires en les écoutant et en écoutant leurs paroles, alors qu'effectivement, elles sont assez souvent dénigrées. Et effectivement, peut-être qu'il y a un move un petit peu genre gentrificateur à vouloir dire que PNL, c'est de la poésie. Mais moi, en tout cas, en termes d'émotion, ça me fait la même chose.
Ok. Je vois.
Là, je te rejoins. Ah,
mais oui,
je suis grave d'accord avec tout, en vrai. En vrai, je suis grave... En fait, j'y avais pas pensé, mais elle a trop raison. Ça fait trop en mode Télérama qui adoube le rap, quoi. Même si, de fait... Enfin, je suis un peu sur on the fence parce que franchement, même si de fait, genre, il y a tellement de. Enfin, je sais pas, c'est pas un sous-genre en fait, mais c'est genre, ils s'alimentent entre eux en fait, comme, comme genre, quoi. Le rap et la poésie, quoi. Tu vois, genre le rap, enfin je trouve que ça, moi personnellement, et je pense Louz aussi, ça nous a tellement inspiré même dans nos pratiques poétiques que tu vois, t'as envie, ouais, t'as un peu envie de dire aussi, ouais, bah ouais, c'est grave en fait, c'est trop de la poésie, mais parce qu'en même temps, il y a de la poésie partout, même dans la musique en fait, tu vois, genre le dernier, l'album de Solange, Cite à de Tébaum, pour moi c'est super poétique en fait, tu vois, mais bon.
Ouais, d'accord. Je voulais quand même demander aux auditeurs, est-ce qu'ils se sont rendus compte à quel point cette émission était saurore et à chaque fois, à quel point nos invités sont ultra d'accord et se soutiennent. Genre, moi, je trouve ça trop beau et je suis trop contente. En mode, allez les meufs, on est trop bien, on est tous ensemble et on se soutient trop. Donc, trop bien d'avoir deux invités qui sont totalement d'accord et qui ont à peu près la même vision de la chose. Je trouve ça trop beau. Et c'est vrai qu'il y a un peu de la poésie de partout. Je pense que tu as raison, Kémis. La poésie est autour de nous. J'essaye de faire une chute, là. Vous voyez, j'essaye de faire une conclusion un petit peu.
Déjà, je pense que pour conclure, on peut remercier nos invités. Merci à toutes les deux d'avoir été là, déjà, d'avoir répondu présente et de nous avoir... de nous avoir répondu avec autant de brillants. De flamboyance, je dirais même.
Ouais.
Et du coup, on va se laisser. Et puis, on va se quitter un petit peu en douceur avec une petite chanson qui s'appelle « Relax Your Mind » de Bob Andria. Merci à toutes encore et merci aux pirates de nous écouter tous les soirs sur Radio Pirate. C'était l'émission « Ensemble à la race ». Et donc, rendez-vous demain à 21h pour une nouvelle émission de Radio Pirate qui pirate ton confinement tous les soirs. Bisous la piraterie.
Merci Lucie, bonne soirée.
Salut.
Merci. Bye bye. Vibes out of your cage.